est l'heure d'accueillir la rédaction de France Culture et Thomas Cluzel pour le journal. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Le projet de loi sur la fin de vie arrive aujourd'hui à l'Assemblée.
Et déjà, celle qu'on présente comme la grande réforme sociétale de ce second quinquennat promet de réveiller de forts clivages éthiques, politiques et religieux. À suivre également cette affaire de piraterie industrielle où quand on apprend que des voitures de la marque Citroën sont aujourd'hui fabriquées en Russie en toute illégalité. On se rendra à Jérusalem après le retrait ce matin du chef du renseignement militaire israélien, le tout premier responsable à démissionner depuis l'incursion des terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. On se demandera également pourquoi le président turc Recep Tayyip Erdogan a choisi de se rendre en Irak aujourd'hui pour sa première visite d'État en plus d'une décennie. Enfin, l'année 2023 était la plus chaude jamais enregistrée en Europe. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, Mathieu Chevalier, spécialiste de l'évaluation et du suivi climatique pour l'Observatoire européen Copernicus. Jugé trop modéré pour les uns, dangereux pour les autres, le projet de loi sur la fin de vie entame donc aujourd'hui son marathon législatif. Un mois d'audition devant une commission spéciale de l'Assemblée qui devra éplucher le texte et ses amendements, le prélude d'un parcours qui au total pourrait durer jusqu'à 2 ans et durant lequel les députés devront aussi, on l'imagine, composer avec l'atmosphère hors des murs du Palais Bourbon. Alors au cœur des questionnements, on trouve le fait de proposer à certains patients le moyen de se suicider et quand ils sont incapables d'accomplir le geste fatal, de le faire pour eux. Un sujet éminemment sensible pour lequel les groupes politiques ont d'ailleurs d'ores et déjà annoncé qu'aucune consigne de vote ne serait donnée, mais déjà les premiers clivages se dessinent. En clair, la gauche et le camp présidentiel devraient représenter l'essentiel des soutiens au volet le plus controversé du projet sur l'aide à mourir face à l'hostilité qui domine encore à droite et à l'extrême droite. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Thomas.
Ce qui frappe surtout, c'est qu'au-delà de la fracture, disons attendue, entre progressistes d'un côté et conservateurs de l'autre, en réalité, Stéphane, des divisions existent au sein même de chaque groupe.
Globalement, à l'Assemblée nationale, c'est à gauche qu'on trouve le plus grand nombre de partisans de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, et à droite, le plus grand nombre de réticents. À gauche, on estime que le moment est venu, qu'il y a une attente d'une majorité de la population. Un sondage de l'IFOP réalisé il y a un an et demi indiquait effectivement que 3 personnes sur 4 y étaient favorables. Tandis qu'à droite s'expriment encore des doutes nourris par des considérations éthiques et des convictions religieuses. Au Rassemblement national, par exemple, Marine Le Pen est plutôt contre une évolution de la législation. Elle estime que la voie choisie par le gouvernement est une voie facile, car elle fait fi des carences dans le domaine des soins palliatifs. Chez les Républicains également, beaucoup de députés militent en faveur du statu quo. Ils estiment que l'actuelle loi Leonetti sur la fin de vie est suffisante. Cette position est notamment défendue par le candidat des Républicains aux élections européennes, François-Xavier Bellamy, au conviction catholique revendiquée. Certains à droite soupçonnent d'ailleurs Emmanuel Macron d'avoir inscrit ce projet de loi à l'agenda en pleine campagne électorale, d'une part pour gêner le candidat de la droite et d'autre part pour s'adresser aux électeurs de centre-gauche plutôt favorables à la loi. Mais en réalité, vous l'avez dit, les doutes, les hésitations et même les réticences traversent l'ensemble des groupes politiques dans la majorité comme dans l'opposition. Tout le monde est bien conscient que le sujet est sensible, qu'il touche à l'intime. Par conséquent, chaque formation laissera le libre choix à chacun de voter en conscience. C'est aussi la raison pour laquelle l'examen parlementaire devrait prendre beaucoup de temps, au minimum 1 an, peut-être 2 ans, pronostiquent certains. Le gouvernement n'a en effet pas enclenché la procédure accélérée sur ce projet de loi, lui laissant la possibilité de faire plusieurs allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Merci Stéphane Robert. Près de 500 jours après le verdict rendu en première instance, le procès en appel de 2 proches de l'auteur de l'attentat au camion Bélier qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais de Nice dès le 14 juillet 2016 s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Les 2 accusés avaient été condamnés à 18 ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. Puis c'est aujourd'hui également que s'ouvre le procès de plusieurs responsables de la secte dite de la Grande Mutation. 6 personnes au total comparaîtront à partir de cet après-midi devant le tribunal judiciaire de Paris pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine entre 2010 et 2015.
Un nombre stupéfiant de travailleurs est susceptible d'être exposé aujourd'hui aux risques sanitaires liés au changement climatique.
Oui, plus de 70% de la main-d'œuvre mondiale, c'est ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui par l'Organisation internationale du travail, où quand les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses risquent non seulement de réduire la productivité et d'endommager les infrastructures, mais aussi, Catherine Pétillon, d'augmenter la mortalité.
L'Organisation internationale du travail estime que plus de 2,4 milliards de travailleurs sont susceptibles d'être exposés à une chaleur excessive à un moment ou à un autre de leur carrière. Les personnes les plus à risque sont celles qui travaillent en extérieur ou dans les lieux fermés, mal ventilés. C'est massif. Chaque année, près de 23 millions d'accidents du travail et 19 000 décès liés au travail sont imputables à une chaleur excessive. Sans compter les 26 millions de personnes dans le monde souffrant d'une maladie rénale chronique liée au stress thermique sur le lieu de travail. La chaleur n'est pas le seul problème. Le rapport pointe toute une série de risques pour la santé liés au dérèglement climatique, avec pour conséquence des cancers, des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou encore des problèmes de santé mentale. L'OIT estime à 19 000 le nombre de morts chaque année en raison d'un cancer de la peau liée au travail et à l'exposition aux UV. La pollution de l'air sur le lieu de travail entraîne jusqu'à 860 000 décès par an. Le rapport pointe aussi les décès liés aux événements climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents, ainsi que la multiplication des maladies dites vectorielles, c'est-à-dire transmises par les moustiques ou les tiques, par exemple. On le comprend à ce bilan édifiant, les travailleurs sont déjà très exposés et la situation va empirer. Voilà pour le diagnostic. Or, face à cette urgence mondiale, les réponses restent insuffisantes. L'Organisation internationale du travail plaide notamment pour une meilleure articulation entre les politiques climatiques et celles de santé au travail et note que la recherche reste majoritairement axée sur la santé publique sans suffisamment prendre en compte la santé au travail. Mais elle insiste aussi sur le rôle crucial des entreprises dans la lutte contre les causes du dérèglement climatique et la nécessaire réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Alors, on l'aura compris, les effets du réchauffement climatique ont aujourd'hui des impacts délétères sur les organismes. Or, en 2023, l'Europe a connu un nombre record de jours où la chaleur ressentie, justement, aura été extrême pour les corps humains. C'est ce qui ressort cette fois-ci du dernier rapport de l'Observatoire européen Copernicus et de l'Organisation météorologique mondiale publié ce matin. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Mathieu Chevalier, chef de service en charge de l'évaluation du suivi climatique pour Copernicus. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Alors peut-être avant d'entrer dans les détails, commençons si vous le voulez bien par dresser un tableau d'ensemble. Sans surprise, les effets du changement climatique continuent de peser de plus en plus fortement et notamment sur l'Europe.
Tout à fait. Alors tout d'abord, on constate effectivement que l'Europe se réchauffe. Donc la tendance de long terme dans les observations est très claire, hein, les observations qui sont présentées dans ce rapport que vous venez de citer. Et donc notamment depuis la deuxième moitié du 19e siècle, qui est la période que l'on utilise comme référence pour le climat qu'on appelle pré-industriel, la température moyenne en Europe a augmenté d'environ 2,3 degrés. Mais l'Europe se réchauffe et se réchauffe aussi rapidement. De manière générale, les continents se réchauffent plus que les océans, deux fois plus, et à cela s'ajoute le fait que sur les 30 dernières années, l'Europe est le continent qui s'est réchauffé le plus rapidement.
Effectivement, deux fois plus vite que la moyenne de la planète. Comment explique-t-on ce phénomène ?
Alors, il y a plusieurs éléments. Bon, déjà, le fait que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, c'est basé sur des comparaisons de tendances de température sur les différentes régions identifiées par l'Organisation météorologique mondiale. Alors, plusieurs facteurs. Le premier, la géographie, la définition de l'Europe. En comparaison d'ensemble des continents, une part importante de l'Europe se situe dans ou à proximité de l'Arctique, qui est la région du globe qui se réchauffe le plus rapidement par un certain nombre de phénomènes physiques, notamment liés à la glace de mer. Et le deuxième facteur tient à d'autres changements, cette fois-ci dans la circulation atmosphérique qui a ces dernières années favorisé la survenue de vagues de chaleur en été. D'autres facteurs peuvent entrer en compte, on a identifié notamment l'augmentation du rayonnement solaire et la diminution de la couverture nuageuse qui serait liée à la réduction de la pollution de l'air.
Alors, l'an dernier, donc 2023, a atteint ce nombre record de jours de chaleur en Europe. Et puis, outre les canicules, le vieux continent a subi aussi de nombreux autres phénomènes météorologiques extrêmes et en particulier des inondations. Est-ce que cela signifie qu'on assiste à une redistribution des précipitations à l'échelle du continent ?
Alors, il est vrai que donc l'année 2023 a été l'une des quatre années les plus pluvieuses en Europe, avec 7% de plus de pluie que la normale. Alors, c'est un contraste très net avec l'année précédente, 2022, qui, elle, fut marquée par une sécheresse intense et prolongée et des déficits pluviométriques importants dans une grande partie de l'Europe, dont la France. En 2023, donc, un certain nombre de pays européens ont été affectés par des inondations liées à des épisodes pluvieux intenses, voire extrêmes. On se souvient de l'Italie en mai, de la Slovénie, de la Norvège ou de la Suède cet été, et bien sûr de la Grèce et de la Bulgarie en septembre. Peut-être plus localement également, les trois derniers mois de l'année 2023, particulièrement pluvieux sur l'Europe du Nord-Ouest, dans un contexte très très tempétueux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut clarifier plusieurs points. Donc, ça paraît contre-intuitif, mais toutefois, le réchauffement des océans augmente la quantité d'eau qui s'évapore vapeurs à leur surface et du coup, on a plus de vapeurs d'eau présentes dans l'atmosphère, mais également un volume d'air qui se réchauffe peut contenir plus d'eau. Donc du coup, ces deux facteurs peuvent favoriser davantage de précipitations et des précipitations d'ailleurs plus intenses. Mais après, pour savoir où est-ce qu'il va pleuvoir, là cette fois-ci, c'est des changements qui sont plus liés seulement ces facteurs que je viens de mentionner, mais également les changements de la circulation atmosphérique, c'est-à-dire les dépressions, les anticyclones, les mouvements des masses d'air, etc. Et c'est cela qui va faire que certaines régions vont devenir plus pluvieuses ou plus sèches.
Est-ce que tous ces événements climatiques extrêmes que vous rappeliez à l'instant et qui sont ceux donc qui affectent le plus fortement la santé humaine augmentent plus rapidement que nous ne l'envisagions jusqu'à présent ?
Alors c'est un peu tôt pour mentionner cela. Les impacts en tout cas constatés sont cohérents avec un certain nombre d'études, notamment par rapport au changement climatique. Il faut toutefois mentionner par exemple que le contexte, je pourrais peut-être mentionner un autre extrême dont on n'a pas forcément parlé là, qui est au niveau de l'océan, à la surface de l'océan. On a pu constater également en Europe, dans la partie européenne, les zones océaniques européennes, que donc, les températures de surface de la mer les plus élevées, qui sont expliquées par ce qu'on a appelé des canicules marines. Et cela s'est déroulé dans un contexte de changement climatique, mais également intensifié par d'autres phénomènes. On pense notamment au phénomène El Niño, qui s'est développé dans l'année. Donc on a un certain nombre d'éléments, un changement climatique, une tendance de long terme, avec également des éléments qui chaque année peuvent moduler la réponse, éventuellement l'intensifier. Donc voilà, donc, encore une fois, il faut avoir un certain recul.
Merci Mathieu Chevalier, donc spécialiste de l'évaluation et du suivi climatique pour l'Observatoire européen Copernicus, d'avoir répondu à notre invitation, et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Il est 12h41 sur France Culture, vous écoutez le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel.
Au lendemain du vote à Washington d'une aide militaire et économique de près de 61 milliards de dollars à Kiev, les forces ukrainiennes et russes se sont livrées hier à des combats acharnés, tout particulièrement à proximité de la petite localité de Tchassiv-Ivar, principale ville encore sous contrôle ukrainien de la région de Donetsk et important nœud ferroviaire logistique pour l'armée de Kiev face à l'envahisseur. De leur côté, et après avoir salué donc la reprise du soutien américain, les Européens tenteront à leur tour aujourd'hui de s'organiser pour venir en aide à l'Ukraine. Une rencontre des ministres des Affaires étrangères a commencé à Luxembourg. Les avancées restent toutefois encore laborieuses. Plusieurs pays, dont la France d'ailleurs, rechignant encore à se séparer de leur système de défense antiaérienne les plus perfectionnés.
Et c'est donc en pleine guerre provoquée par Moscou qu'on apprend que des voitures françaises sont actuellement fabriquées en toute illégalité en Russie avec la complicité d'un constructeur chinois.
Oui, une véritable affaire de piraterie industrielle dont se dit victime aujourd'hui le groupe Stellantis, propriétaire notamment de la marque Citroën. Et pourtant, comme la plupart des grands constructeurs européens, Stellantis a bien officiellement quitté la Russie en avril 2022, juste après donc l'invasion de l'Ukraine. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Moscou. Stellantis, je le disais, a bien stoppé la production dans son usine, sauf qu'une société russe, Sylvain, en a repris le contrôle.
Oui, alors la production reste encore modeste, 2 à 3 véhicules par jour, mais l'usine de Kalouga, à 200 km au sud-ouest de Moscou, sort donc de nouveau des Citroën, comme avant la guerre, et la société russe qui a repris cette usine les a déjà mises en vente sur son site internet, qui ressemble en tout point à un site officiel Citroën. On y trouve donc une centaine de C5 Aircross, labellisés russes, garantis 3 ans. En apparence, rien ne les distingue de celles que l'on peut acheter en France, si ce n'est quelques détails, et pour cause, ces voitures sont assemblées en Russie à partir de pièces originales Citroën fournies par le constructeur chinois Dongfeng. Dongfeng a un accord avec Stellantis pour fabriquer des C5 Aircross en Chine et a donc envoyé des kits à assembler en Russie. Les carrosseries sont déjà soudées, déjà peintes. En tout, 1700 pièces qui sont acheminées par train de la Chine vers la Russie et qui permettent donc aux ouvriers russes de faire du mécano en quelque sorte et de sortir ces voitures.
Et cela, Sylvain, donc en toute illégalité ?
Oui, alors chez Stellantis, en fait, on affirme avoir perdu le contrôle de l'usine russe depuis des mois. On explique aussi avoir signifié à Dongfeng qu'il n'avait pas le droit d'exporter des kits vers la Russie. Mais cette affaire symbolique, pour l'instant, au vu du nombre de véhicules produits, est aussi géopolitique. Plusieurs sources nous ont confirmé qu'elle n'a pas pu se faire sans recevoir le feu vert au plus haut niveau, tant côté russe que côté chinois. Dongfeng est la propriété de l'État chinois et il y a, chez le nouveau propriétaire russe, des anciens hauts fonctionnaires proches du Kremlin. Cela permet d'afficher afficher en quelque sorte la bonne entente sino-russe, nous a expliqué un bon connaisseur du dossier. Quant à Stellantis, il proteste bien sûr, mais pas trop non plus. Son préjudice financier reste faible et il préfère sans doute éviter de se fâcher vraiment avec le gouvernement chinois, dont le marché lui reste ouvert, contrairement au marché russe.
Merci Sylvain Tronchet à Moscou. Plus de 6 mois après le début du conflit à Gaza, en représailles à l'attaque barbare du 7 octobre, Benjamin Netanyahou n'a de cesse de marteler sa détermination à lancer une offensive terrestre à Rafah, considérée comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste Hamas. Et c'est ainsi qu'hier soir encore, veille du début de la Pâque juive, le premier ministre israélien a dit préparer les prochaines étapes de la guerre. Pendant ce temps, dans l'enclave palestinienne, le sifflement des balles comme le hurlement des bombes le dispute toujours au cri et aux sanglots des civils. Le dernier bilan publié hier fait état de plus de 34 000 morts. Et puis les violences se multiplient également en Cisjordanie occupée où les forces israéliennes mènent des raids quasi quotidiens. Enfin ce matin, premier responsable a démissionné depuis l'incursion sanglante des terroristes du Hamas le 7 octobre, jour le plus meurtrier de l'histoire de l'État hébreu depuis sa création. Le chef du renseignement militaire israélien s'est retiré. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. L'homme, Thibault, dit aujourd'hui assumer clairement sa responsabilité.
Oui, c'est un aveu d'échec mais aussi de culpabilité dans une lettre d'une page publiée par l'armée. Aaron Aliva écrit vivre jour et nuit avec l'horrible douleur de la guerre et concède ne pas avoir rempli sa mission. Un constat amer qu'il avait déjà acté seulement 10 jours après le massacre du 7 octobre, parlant alors d'un échec du renseignement. Alors parmi les erreurs qui sont attribuées à ses services, ne pas avoir écouté les alertes en interne qui avertissaient en avril puis en août de l'année dernière de l'imminence d'une attaque, et puis avoir trop fait confiance aux nouvelles technologies au détriment du renseignement humain. Aaron Aliva a tenté de rectifier le tir en remettant sur pied, juste après le massacre, l'unité 504 et ses agents arabophones infiltrés à Gaza, alors qu'ils avaient abandonné l'enclave quelques années auparavant. Trop tard, évidemment, pour un haut gradé qui part donc à la retraite après 38 ans de service. Dans sa lettre de démission, Aaron Aliva exprime un dernier souhait: qu'une commission d'enquête soit rapidement mise sur pied. Un cadeau d'adieu empoisonné pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, soupçonné de se défausser sur ses services et de ne pas assumer ses responsabilités.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. C'est également dans ce contexte régional explosif, alimenté non seulement donc par la guerre à Gaza, mais aussi les tensions qui opposent l'État hébreu à la République islamique d'Iran, que des roquettes ont été lancées hier soir depuis le nord de l'Irak vers une base de la coalition internationale anti-djihadiste en Syrie voisine, soit la première attaque d'envergure après plusieurs semaines d'accalmie contre les troupes emmenées par Washington.
Première visite d'État depuis 12 ans, le président turc est arrivé aujourd'hui à Bagdad.
Oui, Recep Tayyip Erdogan qui se rendra d'ailleurs également à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak. Il doit évidemment y être question de sécurité, en clair de la lutte contre les combattants kurdes du PKK. Et puis les discussions devraient également porter sur le commerce et l'énergie, en particulier la gestion des ressources en eau, mais aussi les exportations pétrolières. Les précisions d'Anne Andlauer.
La priorité d'Ankara dans sa relation avec Bagdad, c'est la lutte contre le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan. Ces bases arrières sont installées dans les montagnes du nord de l'Irak, une source ancienne de tensions entre les deux voisins. Le mois dernier, l'Irak a interdit le PKK, mais Ankara en attend plus. Objectif affiché, la création d'un centre opérationnel conjoint pour la conduite de ces opérations militaires en territoire irakien. La visite de Tayyip Erdogan vise à poser les jalons légaux d'une coopération turco-irakienne contre le groupe armé kurde. Le président turc vient aussi parler d'hydrocarbures, un peu plus d'un an après avoir interrompu les flux de l'oléoduc Irak-Turquie. En cause, une décision arbitrale condamnant Ankara pour des exportations de pétrole de la région du Kurdistan sans le consentement du gouvernement de Bagdad. Si la visite ne devrait pas permettre de trouver une solution, la Turquie pourrait en revanche faire un geste dans le dossier sensible du partage des ressources hydriques. Bagdad lui demande depuis des années de libérer des quantités d'eau plus importantes dans le Tigre et l'Euphrate. L'Irak accuse les barrages construit en amont par son voisin turc, de réduire le débit des deux fleuves, contribuant aux graves sécheresses dont souffre le pays.
Après une première semaine consacrée à la sélection du jury, le procès historique de Donald Trump au pénal abordera à partir d'aujourd'hui les accusations contre l'ex-président américain, en l'occurrence des paiements dissimulés pour acheter le silence d'une ancienne star de film porno juste avant le scrutin de 2016, de quoi jeter témoin gênant à l'appui une lumière crue sur les coulisses de sa conquête de la Maison Blanche. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par quelques averses de la Bretagne aux Ardennes, en passant par le centre, partout ailleurs, le temps sera calme et ensoleillé. Quant aux températures, en nette baisse, elles afficheront entre 8 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.